La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Avez-vous remarqué comme nous faisons de beaux voyages en ce moment en compagnie de nos créatrices, artistes femmes? Des pays pour nous plutôt exotiques, hein, comme le Mexique, le Brésil. Et est-ce que vous vous êtes rendu compte que nos Brésiliennes, l'émission précédente, outre le fait de créer, ont passé une bonne partie de leur existence à choquer leurs compatriotes en voulant revendiquer leur liberté de création et d'existence, tout simplement? Alors, vais-je continuer à parler des femmes surréalistes, hein, car c'était le sujet la dernière fois, bien que je ne pense pas que je vais pouvoir toutes les citer, certainement parce que je vais en oublier. Ceci dit, en voilà une qui s'approche, une poète, une écrivaine grecque nommée Gisèle Prasinos, née à Constantinople en 1920, mais qui viendra s'installer en France avec ses parents pour fuir la guerre gréco-turque. Et elle est également sœur d'un peintre nommé Mario Prasinos. Alors elle a été cataloguée comme surréaliste car à 14 ans, mue par une envie aussi imprévisible qu'irrépressible à ce qu'il paraît, et que les surréalistes ont apparemment lié à l'écriture automatique, c'est-à-dire une écriture où l'être est guidé par l'inconscient, par l'invisible, voire un esprit, elle écrit ses premiers vers. Et son frère s'empresse de les montrer, ce qui parvient sous les yeux ou dans les oreilles des artistes surréalistes en vogue à l'époque. Alors, ceux-ci, émerveillés devant tant de talents, inviteront Gisèle Prasinos à lire ses poésies devant eux, pendant que Man Ray, le célèbre photographe, les immortalisera. Alors, en 1934, ses premiers poèmes seront publiés dans des revues de l'époque, comme Minotaure ou Document 34. Et Breton commentera « Le ton de Gisèle Prasinos est unique, tous les poètes en sont jaloux ». Alors, curieusement, je n'ai pas l'impression d'en avoir entendu beaucoup parler, malgré une entrée précoce et remarquée dans le monde des surréalistes, dont elle se détachera cependant pour suivre ensuite, quelques années plus tard, son chemin personnel de créatrice. Alors, en quittant le groupe des surréalistes, elle voulait surtout se débarrasser de l'image de femme-enfant qu'ils avaient plaquée sur elle, correspondant globalement à celle d'une innocente qui ne s'appartient pas et dont les qualités créatives ne peuvent que relever de l'écriture automatique avec tout ce que cela comprend d'irrationnel. Bon, il ne faut pas oublier que la dualité homme-femme jouait beaucoup chez les surréalistes, comme je vous l'avais fait remarquer. Et souvenez-vous d'une émission d'avant, lorsque j'ai fait intervenir Simone de Beauvoir et ce qu'elle écrivait à ce sujet dans son livre « Le deuxième sexe ». Et donc les surréalistes masculins avait tendance à opposer le féminin, c'est-à-dire ce que représente l'entité femme dans sa globalité, celle-ci incarnant la non-individualité, et donc le manque d'autonomie personnelle et l'influençabilité, et surtout la femme incarnait le support de leurs rêves et de leurs désirs. Alors que le masculin, c'est-à-dire l'homme, s'appartient, c'est un être conscient, individualisé, qui pourra se montrer autonome et volontaire, libre de ses choix. Voilà comment je peux résumer l'état d'esprit de ces artistes, bon, c'est plus ou moins nuancé, et qui jouent avec des valeurs en s'attribuant ce qui les arrange. Quoi qu'il en soit, Gisèle Prasinos finira par revendiquer son indépendance littéraire pour affirmer son choix des genres en littérature, chose qu'on lui aurait reprochée, voyant qu'elle s'éloignait de ce que l'on attendait d'elle. Bref, elle a apparemment manifesté quelques valeurs masculines, puisque tout être humain, si on fait un peu de psychologie, possède en lui-même chacune de ses valeurs, à la fois masculines et féminines. En tout cas, elle écrira ce qu'elle voudra, et en plus de poèmes, ben ce seront de nombreux textes, des romans, des contes, des nouvelles, car c'était une femme extrêmement productive, du moins ce que j'ai constaté, et ceci d'autant plus qu'elle vivra très longtemps, jusqu'à 95 ans, car elle décédera en 2015, et elle produira encore bien après les années 2000. Alors, je citerai quelques œuvres parmi tant d'autres, hein, peut-être les plus connues, comme La sauterelle arthritique, créée en 1935, un recueil de poèmes intitulé Facilité crépusculaire en 1937, Le feu maniaque de 1939, qui sera préfacé par Paul Éluard. Parmi les romans, ben, c'est Le temps n'est rien de 1958 ou La voyageuse de 1959. Bon, je ne peux pas les citer tous, hein, comme je vous l'ai dit. Elle a énormément produit jusqu'en 2009-2010, puisqu'elle est décédée à 95 ans. Et pourtant, malgré l'importance de sa production, ben, je ne suis même pas sûre, dans le passé, d'avoir lu quelque chose d'elle, à moins que je ne m'en souvienne plus, c'est possible. Mais Internet encore donne quelques extraits de ses créations que vous pouvez rechercher. Alors, elle éditera fin des années 50 son autobiographie. Que dire de plus de sa personnalité ? Il paraît que c'était aussi une personne reconnue pour son humour, hein, sur lequel elle dira, et je vais vous le lire, « C'est important l'humour, ça aide à vivre. Il faut toujours se moquer un peu de soi, prendre de la distance par rapport à ce qu'on peut dire de vous. Mes personnages, je les rends ridicules, mais j'ai en même temps une grande tendresse pour eux. Ce n'est pas un humour cruel comme on l'a parfois dit. Par exemple, lorsque j'ai écrit une histoire sur un petit garçon sans jambes qui lisait installé dans une cave, ce qui lui permettait de ne voir passer toute la journée devant lui que des jambes et des pieds des gens, on a voulu voir de la cruauté dans mon écriture. Moi, je l'aime cet enfant, avec sa souffrance et son désir, c'est plutôt naïf. » Bon, voilà ce qu'elle a écrit. Alors, elle sera aussi connue pour des dessins, puisqu'elle illustrera ses propres textes et des teintures en feutrine, composées de morceaux de tissu en couleur, qui sont des sortes de représentations de ce qui l'entourait, qui paraît-il l'amusait, même si elle reconnaissait que ce travail lui demandait beaucoup d'énergie et de temps. Bon, j'ai encore essayé de trouver tout cela sur les supports à ma disposition, et le peu que j'ai vu est en effet assez sympathique, enfin du moins pour moi. Et quant à cette dame, son visage m'est apparu aussi, un visage la plupart du temps souriant, avec des yeux bien pénétrants, même en étant âgée, un visage plutôt malicieux, d'une belle vivacité, ce qui correspond à ce que nous pouvons en attendre vu la quantité de production fournie et l'humour qu'elle savait manifester au travers de ses œuvres ou dans ses paroles. Mais allons maintenant en Serbie, hein, pourquoi pas, pour continuer le voyage à l'étranger et pour notre pause musicale à la rencontre d'une musicienne nommée Ljubica Marić, née en 1909, qui est décrite comme une personnalité brillante, ayant su s'inspirer de la musique traditionnelle et notamment religieuse byzantine et la musique médiévale, pour y apporter la modernité. Et ainsi, elle a exploré toutes les possibilités offertes par la musique contemporaine, celles liées au modernisme et à des formes musicales nouvelles comme la musique microtonale, qui apporte une gamme de sonorités plus étendue que celles qui sont traditionnellement produites grâce à des intervalles d'accords réduits et tout ce qui préfigure au dodécaphonisme qui utilise de façon particulière un accord de 12 sons pour un rendu également particulier. Alors, c'était Arnold Schönberg, hein, qui était l'initiateur, j'en avais déjà parlé dans les premières émissions de La Voix des Arts. Enfin, tout ceci est assez technique, un peu complexe, difficile à expliquer. Il vaut mieux peut-être écouter la musique dans un premier temps. Et puis, si vous êtes curieux, ben, cherchez à comprendre et à en savoir davantage. En tout cas, Ljubica Marić a été reconnue et saluée par des artistes importants, compositeurs eux-mêmes. Le compositeur russe Dimitri Shostakovich aurait dit d'elle et de sa musique, et je vous le lis, Ljubica Marić a utilisé tout l'arsenal de la musique contemporaine pour atteindre un objectif élevé. Elle parle du plus profond de son âme, une langue claire et impressionnante. Bon, à savoir qu'elle aura été aussi le premier Serbe à obtenir en 1929 un diplôme de composition après des études musicales et notamment l'apprentissage du violon à l'école de musique de Belgrade et qu'elle poursuivra ses études de composition au Conservatoire d'État de Prague, où elle rencontrera ses maîtres, professeurs, ses pairs, pour l'accompagner et participer à ce qu'elle construise au mieux son futur de compositeur de musique contemporaine. Alors il est dit aussi que sa musique fut interprétée par les plus importants orchestres et que sa carrière prometteuse à un niveau international a été perturbée par la Seconde Guerre mondiale, ce qui ne l'a pas empêché de continuer à composer, et ses compositions sont maintenant considérées comme des créations majeures du XXe siècle. Bon, apparemment, elle disposait d'autres cordes à son arc, hein, je ne vais pas dire à son violon, ce qui n'est pas l'expression, dans l'expression de l'instrument qui convient. Ceci dit, pour dire qu'elle pratiquait également d'autres disciplines artistiques et créatives, puisqu'elle composait de la poésie philosophique. Et place maintenant à la musique Lyubica Marić, une pièce pour piano intitulée Brancolo Colo, qui semble être une danse. Maintenant que nous avons écouté Lyubica Marić, reprenons le cours de nos pérégrinations. Bon, c'est peut-être pas le mot qui convient tout à fait, mais vous m'avez compris. Alors, je vais quand même bientôt laisser les surréalistes, mais ce sera avec difficulté car j'en rencontre encore. Et d'ailleurs, en voici une qui vient à notre rencontre, une Française, une poète plasticienne nommée Valentine Penrose, née en 1898. Alors elle sera attirée par les spiritualités, les philosophies, notamment orientales. Elle vivra même dans un ashram où elle retrouvera une autre compatriote artiste peintre, également poète surréaliste, nommée Alice Raon. Alors, ce sont des femmes, comme pratiquement toutes, je le rappelle, qui, à cette époque, plus que jamais, se veulent libres d'exister, de créer et d'agir sans contrainte et sans nuire à personne. Mais même à cette condition, c'était toujours plus difficile pour une femme. Alors, la peintre-décoratrice Jacqueline Lamba faisait également partie de tout ce cénacle surréaliste composé d'André Breton, entre autres, avec qui elle s'est mariée, et dont elle était la muse, c'est-à-dire l'inspiratrice, le vecteur de son imaginaire. Et auparavant, elle aura suivi des études à l'Union centrale des arts décoratifs de Paris avec la photographe peintre Dora Maar, dont j'avais parlé, et qui est plus connue en tant que compagne de Pablo Picasso que comme artiste, malgré une œuvre conséquente et intéressante. Alors, elle rencontrera également Frida Kahlo, lors d'un voyage au Mexique et avec qui elle entretiendra une belle amitié ponctuée de lettres teintées d'affection et de douceur. Par contre, Frida Kahlo se montrera plutôt vénéneuse avec les surréalistes, ceux qu'elle considérait comme les intellectuels parisiens, parmi lesquels se trouvait André Breton, qu'elle n'aimait pas particulièrement et qu'elle trouvait sans doute égoïste et égotiste, car elle aurait dit de lui qu'il ne pensait qu'à sa propre gloire. Or, ce rejet est-il attribué en partie à leur comportement, leur arrogance affichée et peut-être de mal qui se voulait dominant? Bon, je ne suis pas dans les petits papiers de Frida Kahlo, tout au moins ai-je essayé de consulter quelques écrits, tant que faire se peut, en me méfiant quand même des traductions, car ce que j'ai trouvé n'était pas piqué des vers, elle pouvait être très crue dans ses propos. D'ailleurs, vais-je résister à vous lire ce qu'elle aurait écrit au sujet des surréalistes dans le contexte particulier d'une exposition organisée à Paris où ceux-ci exposaient. Bon, je crois que je vais quand même le lire. Alors, je lis, hein. « Maudits intellectuels de mes deux, bon, elle n'a pas précisé de quoi il s'agissait, je préférerais m'asseoir par terre pour vendre des tortillas au marché de Toluca plutôt que de devoir m'associer à ces, vais-je le dire, putains d'artistes parisiens, je l'ai dit, ça valait le coup de venir rien que pour voir pourquoi l'Europe est en train de pourrir sur pied et pourquoi ces gens, ces bons à rien, sont la cause de tous les Hitler et Mussolini. » Bon, on peut dire qu'elle en met une bonne couche, et encore là, ce n'est qu'un extrait. Bon, revenons à Jacqueline Lamba, qui finira par quitter André Breton et partira aux États-Unis s'installer avec un peintre poète, un sculpteur américain surréaliste lui aussi, nommé David Haar. Et elle sera voisine d'autres artistes, dont Kay Sage, dont je vous ai relaté la destinée et présenté le travail. Bon, je n'ai plus besoin de vous dire que les femmes artistes ont été nombreuses et prolifiques pour la plupart, car en traversant le temps, nous avons rencontré sur notre chemin nombre d'artistes, souvent singulières ou atypiques, avec des styles de vie plus ou moins conformistes ou personnels, la plupart avec du talent, même un grand talent, pertinent, percutant. Beaucoup sont restés dans l'ombre, et d'ailleurs je vais vous lire ce que disait Jacqueline Lamba d'André Breton, car elle fut froissée de ne même pas être mentionnée dans l'ouvrage de Breton intitulé « Le surréalisme et la peinture ». Alors je vous le lis. « Il, donc Breton, il me présentait à ses amis comme une naïade parce qu'il jugeait cela plus poétique que de me présenter comme une peintre en quête de travail. Il voyait en moi ce qu'il voulait voir, mais en fait, il ne me voyait pas réellement. » Alors, suite à ce que je viens de vous lire, hein, j'ai essayé de trouver ces œuvres sur Internet. J'en ai trouvé quelques-unes qui me permettent de dire qu'elle était peintre et avait sa place au sein de tous ces mouvements novateurs, même si le chef de file du mouvement surréaliste préférait la voir comme muse et support de ses rêves et de ses désirs. Enfin, quoi qu'il en soit, vous voyez bien qu'aborder le XXe siècle, c'est se confronter à de grandes transformations à tout niveau et aussi artistiques, sous couvert de modernisme, dans lequel on distingue les différents mouvements qui ont fait l'actualité et se sont appliqués pratiquement à toutes les disciplines artistiques, ce que nous continuerons à voir dans les émissions prochaines, en compagnie de ces dames qui ont souvent pleinement participé. Bien, ben, nous allons écouter un peu de musique. Pour cette fin d'émission, j'ai envie de vous repasser une composition de la brésilienne Chiquina Gonzaga, que j'avais présentée la fois précédente. Encore une qui n'arrêtait pas d'enquiquiner la société brésilienne avec son comportement de femme libre. Et je vous propose une petite musique de tétante, un tango, tant composé, j'en perds mes mots, composé en 1912 et il est temps que je m'arrête. Eh bien voilà, nous sommes arrivés au bout de notre voyage sur une note un peu allègre. Nous aborderons encore d'autres destins de femmes créatrices, artistes, une prochaine fois. Merci de votre écoute sur la Voie des Arts. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.